Je le disais en tout début d'émission, ce matin, on essaye de comprendre le syndrome des ovaires polykystiques. On essaie de comprendre l'une des maladies hormonales les plus fréquentes chez les femmes. Et pour en parler, comme toutes les semaines, avec nous, une gynécologue obstétricienne, Dr Basma Koubaïti. Bonjour.
Bonjour Myriam, un plaisir de vous retrouver de nouveau sur les ondes de Média.
Merci beaucoup. Alors, d'abord, les ovaires polykystiques, donc, ou ce qu'on appelle donc les OPK. C'est quoi ?
Alors, les ovaires polykystiques, c'est un ensemble de syndromes qui va regrouper plusieurs signes cliniques. Mmh. C'est effectivement le premier trouble hormonal qui va toucher la femme jeune en âge de procréer. Et il va concerner en moyenne 10% des femmes. C'est un syndrome qui est chronique, à prendre en charge de façon globale. Ce n'est pas une maladie fixe, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs tableaux cliniques.
Quelles peuvent en être les causes ? Est-ce que c'est assez fréquent finalement ?
Effectivement, c'est assez fréquent. En consultation, on reçoit au moins 2-3 patientes qui ont des signes en faveur d'un syndrome des ovaires polykystiques. Les dermatologues également en reçoivent énormément. Oui. Donc c'est une maladie qui est pluridisciplinaire, qui va regrouper gynécologues, dermatologues et endocrinologues. La cause, par contre, elle est jusqu'à maintenant imprécise. On parle d'une cause génétique, c'est-à-dire que dans la famille, si la maman avait des troubles hormonaux, la sœur, la cousine, il y a de fortes chances que la fille ou la cousine fasse également des troubles hormonaux. Donc dans la famille, on parle d'une fille sur trois qui va être OPK si jamais dans la famille, quelqu'un est déjà OPK. Les causes les plus soutenues ces derniers temps, les plus fréquentes, les plus discutées, c'est les causes environnementales. Donc les causes environnementales sont très importantes parce qu'on parle actuellement de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que la maman, quand elle est enceinte, dans son ventre, le bébé dans son ventre a été en contact avec des perturbateurs endocriniens, soit la cigarette, soit les aliments, tout ce qui est, vous savez, les petits composants qu'on va trouver dans les conserves, dans certains parfums, dans certaines crèmes, dans certains vernis. Donc c'est assez poussé comme recherche actuellement. Mais il n'y a pas encore de vraies causes. On parle également d'un excès d'insuline dans le corps. Donc, certaines femmes auront un excès d'insuline qui vont les prédisposer au syndrome des ovaires polykystiques plus que d'autres.
Alors, on parle de symptômes également. Quels seraient ces symptômes qui reviennent assez fréquemment ? Donc, est-ce que c'est du cas par cas ou c'est plutôt des symptômes qu'on retrouve souvent ?
Alors, il faut savoir que les symptômes sont nombreux, mais ils vont s'exprimer à des degrés variables d'une femme à l'autre. Donc, le plus fréquemment, on aura un trouble du cycle, soit des règles très espacées, une femme qui aura moins de 9 cycles par an, soit on a par exemple carrément des jeunes filles qui viennent avec absence totale de règles pendant 6 mois, 9 mois. Ça, c'est par contre, c'est plus stressant. Parfois, on peut avoir des patientes avec des ovaires polykystiques et qui, au contraire, ont des règles assez rapprochées. Chaque 15-20 jours, elles auront des saignements. Donc, les troubles hormonaux, donc les troubles du cycle, souvent des patientes qui ont une prise de poids rapide avec une obésité concentrée sur la région abdominale. Donc, assez fréquemment, c'est caractéristique, c'est des jeunes filles qui sont plus ou moins élancées avec un tronc, c'est-à-dire la partie abdominale qui est assez large et des jambes plutôt fines. On peut avoir également des signes d'acné, donc une acné qui est d'apparition assez tardive après l'adolescence, parfois même une acné qui va apparaître vers 30-35 ans, chose qui n'est pas habituelle, qui n'est pas normale. On peut avoir un hirsutisme, c'est-à-dire un excès de pilosité au niveau de zones dites masculinisantes, le menton, le duvet qui est important, la barbe, autour des aréoles mamelonnaires, autour des mamelons, sur la ligne ombilicale. Donc tout ça, c'est des signes qui doivent interpeller.
D'accord.
On peut avoir également des patientes qui vont avoir des cheveux clairsemés, très légers, avec une chute importante. Donc ça aussi, ça témoigne d'un trouble hormonal. Chez certaines femmes, on peut avoir des taches cutanées au niveau de la nuque, des bras, donc des taches foncées.
Oui.
Ça, c'est un peu moins fréquent. Et souvent, parfois, les jeunes filles estiment qu'il est normal d'avoir des cycles un peu irréguliers et elles ne vont consulter que devant un retard de fertilité. Et c'est là que l'on découvre qu'elles ont un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, les symptômes, c'est un panel de symptômes et il y en a beaucoup. Ils peuvent ne pas être présents tous, ils peuvent être présents tous, mais à des degrés variables. Et selon les recommandations internationales, il suffit d'avoir deux signes pour poser le diagnostic.
Alors justement, comment se pose ce diagnostic, docteur Basma Koubaïti?
Déjà, il faut savoir que le diagnostic va reposer sur un interrogatoire et un examen clinique pour faire ressortir ces signes cliniques.
Ouais.
D'accord? Donc à la recherche de pilosité, troubles du cycle, acné, parfois on peut même avoir des patientes qui ont des syndromes dépressifs dus au dérèglement hormonal et on trouve chez elles des ovaires polykystiques. D'accord. Et l'échographie va venir apprécier le volume et l'aspect des ovaires qui sont typiquement augmentés de taille avec des microkystes qui sont différents des gros kystes qu'on peut voir à l'échographie. Donc c'est une échographie particulière. Moi, j'appelle ça des ovaires avec un aspect de collier de perles. On a les microkystes qui sont rangés comme un collier de perles.
D'accord.
C'est classique et c'est typique.
Oui.
Et parfois, il y a des exceptions. On a des patientes avec un profil syndrome OPK et qui n'ont pas à l'échographie des ovaires polykystiques. Le bilan hormonal va également être demandé. Il sera fait au cas par cas et non pas chez toutes les patientes. On le demandera pour apprécier le déséquilibre, surtout quand il est important, quand on a un hirsutisme, c'est-à-dire une pilosité excessive, ou dans le cadre de la fertilité.
Alors vous parlez beaucoup de fertilité. Quelles peuvent en être justement les conséquences sur une femme OPK?
Alors, les patientes OPK auront tendance à avoir des cycles longs. La plupart ont des cycles longs, c'est-à-dire on a des cycles qui dépassent 40 jours.
D'accord.
Et souvent, les patientes OPK ont ce qu'on appelle des cycles sans ovulation, anovulatoires, parce que le follicule est bloqué à un stade immature et donc non fécondable. Ou parfois, il ne sort pas. Et l'ovule ne sort pas. Quand elle atteint maturité, elle reste coincée au niveau de l'ovaire, qui est assez épais et dense. D'accord ?
D'accord.
Donc, les OPK ne sont pas stériles. Elles ont un retard de fertilité parce que ces cycles irréguliers, cette ovulation irrégulière compliquent un peu les choses. Mais on a également beaucoup de patientes OPK qui, alhamdoulilah, arrivent à tomber enceinte de façon spontanée. Mais chez ces patientes qui ont quelques troubles, chez qui on a déjà diagnostiqué des ovaires polykystiques, on leur donnera en moyenne 6 mois pour faire des essais de grossesse spontanée. Et s'il n'y a pas de grossesse, à ce moment-là, on donnera un petit boost.
Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences également sur le moral de ces femmes, tout simplement?
Alors effectivement, il faut savoir que les OPK ont un effet sur la santé à court terme et à long terme. Le syndrome dépressif est décrit chez les patientes ayant des ovaires polykystiques, donc changement de l'humeur, fatigue, irritabilité, donc tout ça c'est dû aux hormones qui sont assez labiles chez la femme. Mais il faut savoir que les risques les plus importants sont liés au système cardiovasculaire, parce qu'on peut être sujet au fil du temps à des maladies cardiovasculaires, qui sont bien sûr liées à la prise du poids et à l'obésité abdominale. On a également le risque de diabète de type 2 parce que les patientes ayant des ovaires polykystiques ont souvent une insulinorésistance, donc une résistance à l'insuline, d'où la prise de poids importante, d'où parfois des chiffres de glycémie sur des analyses qui sont un peu dans la valeur supérieure de la moyenne. On peut également, en cas d'obésité importante, avoir une apnée du sommeil, des apnées du sommeil, donc des troubles respiratoires au cours du sommeil, qui détériore la qualité du sommeil, donc on se réveille fatigué, donc ça peut entraîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, un syndrome dépressif chronique.
Docteur Basma Koubaïti, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à Rabat. En termes de traitement, comment ça se passe?
Alors, il faut savoir qu'à ce jour, aucun traitement ne va permettre de guérir à 100% les ovaires polykystiques. Car, comme je l'ai dit, c'est un syndrome. On va apprendre à vivre avec nos ovaires polykystiques.
Ouais.
On va apprendre à les dompter. Donc, je dirais ça comme ça, on va dompter nos ovaires. Tous les traitements que l'on peut proposer, ils auront pour but soit de réguler le cycle qui est perturbé, soit de limiter la croissance des poils, soit c'est un traitement pour traiter l'acné, améliorer la qualité, le grain de peau, réduire par exemple la chute de cheveux. Donc c'est souvent des traitements hormonaux, souvent associant des contraceptifs avec de la progestérone. On peut également traiter l'insulinorésistance avec de la metformine, mais toujours après bilan et consultation. Donc pas de prise, s'il vous plaît, de façon... pas d'automédication, d'accord?
C'est très très important,
c'est
justement.
Très important, oui, parce que souvent on a des patientes qui s'amusent à copier-coller les traitements d'une amie ou d'une cousine. C'est pas bien. Il faut également consulter un dermatologue devant des troubles d'acné sévères pour éviter les cicatrices, pour gérer également la pilosité excessive. On peut avoir recours à l'épilation définitive par laser ou lumière pulsée. Ça donne de très bons résultats chez les patientes ayant des ovaires polykystiques. Et puis bien sûr, il faut savoir que la prise en charge des troubles de fertilité se fera par un spécialiste pour stimuler l'ovulation, pour induire éventuellement un cycle. Dans des cas ultimes, on a parfois recours à la fécondation in vitro. Et il faut savoir que l'hygiène de vie, c'est la chose la plus importante. Elle est à la base de la prise en charge des ovaires polykystiques. On dira, et on ne cessera de le répéter, chez les patientes en surpoids, chez qui on va diagnostiquer des ovaires polykystiques, une perte de 10%, 5 à 10% du poids initial permet de restaurer un cycle menstruel normal, permet de relancer une fertilité parfois. Parfois, j'ai des patientes qui perdent 5-6 kilos et qui reviennent enceintes. C'est magnifique, ça veut dire que le corps est habitué à fonctionner à un certain poids et non pas quand il est en surpoids. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il n'y a pas de vrai régime pour les ovaires polykystiques. On voit un peu de tout sur les réseaux sociaux, sur Google, mais il faut savoir que la base du régime, c'est réduire le sucre blanc, voire éliminer la farine blanche, donc préférer les farines complètes. On va essayer de dîner tôt, on va manger équilibré les 3 repas principaux, moins de sauce, faire de l'exercice physique. L'activité physique, elle est importante, elle a pour but de réduire l'insulinorésistance, donc c'est un phénomène hormonal, donc c'est une prise en charge qui est globale. Et ça, quand la patiente le comprend, eh bien, on a quasiment gagné la bataille.
Et c'est sur cette jolie note positive qu'on va se quitter, docteur Basma Koubaiti, pour vous retrouver dès la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
Merci à vous, Mariam. À très bientôt.
À bientôt.